avion sans air. J'ai chanté toute la nuit. Chanté pour celle
radio,
radio, radio, radio,
radio, radio, radio, panique, radio, radio, panique.
Comme un avion sans aile, l'histoire de Radio Panique. Première partie, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes. 1983-1987. Chapitre 5. La promotion de Radio Panique par des voix non radiophoniques.
Les deux premières années de Radio Panique, 1984-85, sont des années très pénibles. L'audience est quasi nulle, car les radios commerciales émettent en surpuissance et écrasent littéralement les stations qui, comme nous, émettent avec seulement 100 watts de puissance. Je suis persuadé qu'une stratégie à adopter alors est de faire connaître Radio Panique par des voies extra-radiophoniques. Sensibiliser l'opinion, susciter le désir de venir nous rejoindre, instaurer de cette façon des soutiens dans le milieu progressiste et associatif. Dans cette optique, je continue à éditer Courrier 1030, le petit journal dont je m'occupe avec une équipe de bénévoles, un magazine basé sur les droits des gens, axé sur les communes de Scarbec et de Saint-Josse, local certes, mais non localiste. Je vais consacrer plusieurs pages de ce mensuel à Radio Panique. Une synergie entre les deux médias ne peut être qu'enrichissante. D'autant plus qu'une autre équipe de Courrier 1030 assure le magazine d'information générale sur la radio chaque dimanche matin. Courrier 1030 de février 1984 paraît avec, en couverture, une photographie de l'antenne de Radio Panique et un titre évocateur, « Des yeux près des oreilles ». En page centrale, l'affiche de Radio Panique, une affiche in, noir et blanc. À gauche, un personnage assis sur une bombe, un transistor à l'épaule. À droite, une porte entrouverte, la porte d'un studio d'où jaillit la lumière. Jusqu'à son numéro ultime fin 1984, Courrier 1030 publiera la grille horaire de Radio Panique, des articles de fond sur le paysage radiophonique du moment, des informations sur Radio Panique et des interviews de ses animateurs. Un essai d'humour au deuxième degré ne sera pas apprécié par tout le monde et devra être abandonné. La grille horaire est accompagnée d'une remarque. Ne vous en faites pas, ils ne sont pas très ponctuels. Le numéro 16 montre en couverture une femme juchée au-dessus d'une échelle, un transistor à l'oreille, dans une pose abracadabrante. Légende, après des heures de recherche, elle a réussi à capter une radio non commerciale. En marge d'un paragraphe qui explique que les animateurs de Radio Panique sont bénévoles et en plus doivent se pourvoir de disques et de cassettes, quelle radio minable!
Juillet 1984. Note personnelle du permanent aux autres administrateurs exprimant sa difficulté d'assumer à la fois la gestion du courrier 1030 et son rôle de permanent à la radio.
Mon impression est que je remplis mal mes deux tâches, parce que partagées entre elles. Dans la pratique, les problèmes sont très différents à la radio et au crayon libre. Des deux côtés, presque rien ne marche automatiquement, puisque je suis le seul permanent payé devant faire travailler deux équipes de bénévoles. Et que certains de ceux-ci, très disponibles il y a 8 mois, le sont beaucoup moins aujourd'hui. Je propose dès lors que les deux associations s'installent dans le même local, partageant et réduisant dès lors les frais de location, de téléphone, de secrétariat, de documentation, de permanence.
Cela veut dire concrètement que Courrier 1030 déménage dans le local de Radio Panique, pourtant déjà si exigu. Cette proposition de rationalisation est rejetée. Sans doute redoute-t-on que Courrier 1030, auquel je suis fort attaché, ne s'annexe Radio Panique, ou du moins par rapport à d'autres groupes, se taille une place disproportionnée. Certains en viennent à reprocher au permanent de vouloir travailler plus pour le crayon libre que pour Panique, alors que c'est le feu ici à Panique. L'équipe journalistique de Courrier 1030 se dissout progressivement, faute de temps, faute de motivation, faute de résultats aussi. Je décide dès lors d'abandonner cette activité fin 1984. L'équipe radiophonique ne survivra pas non plus très longtemps. Les faits ont raison de mon obstination. Ce n'est ni la première, ni la dernière fois. Les pages Courrier 1030 sur Radio Panique servaient de matériel de promotion et d'organe de liaison pour la station. De temps à autre, j'essayerai de relancer une sorte de bulletin de la radio, Panique Info. Mais de manière générale, il y aura les années qui suivent un déficit certain dans la promotion par l'écrit de Radio Panique. Hendrik Verhoeken est un des très rares artisans de Radio Panique sensibilisé par cette question. Mais ce n'est que 12 ans plus tard qu'il lancera une nouvelle formule de bulletin de la radio.
Lanterne, 25 février 1985, article intitulé « Il n'y a plus de rumba dans l'air ».
Il y a beaucoup de glacis, de calculs, d'intermédiaires. Ce qu'on y trouve à coup sûr, c'est un amas de fréquences FM, dont seulement une partie aboutit à notre récepteur radio entre 100 et 108 MHz. Situation absurde, inconfortable, scandaleuse. Ce sont les stations qui sont le plus légales que vous avez le moins de chances de capter. La courte histoire des radios libres en Belgique est une histoire qui s'est emballée à certains moments pour souvent s'embourber. Ces petites phrases incisives, d'autant plus pertinentes qu'elles sont impertinentes, sont extraites de « Il n'y a plus de rumba dans l'air », les radios libres à Bruxelles, un dossier publié par Courrier 1030 et édité par l'ASBL Le Crayon Libre. Loin de se cantonner à l'écrit, Le Crayon Libre s'est également ouvert à d'autres formes d'expression. C'est ainsi que l'ASBL a coproduit et co-réalisé avec le Vidéobus de Bruxelles un vidéogramme sur les radios locales à Bruxelles. Le dossier que propose aujourd'hui le Courrier 1030 est la prolongation logique et attendue de ce vidéo. On y trouve un sondage auprès de Scarbécois tiré au sort dans l'annuaire téléphonique, ainsi que l'interview de gens particulièrement branchés sur le sujet. Le responsable du plan de fréquence de la RTT, le chef de cabinet du ministre Moureau, Communauté française, ainsi que notre confrère Jean-François Dumont, spécialiste de la FM, qui n'hésite pas à affirmer que l'outil a été perverti. Cette triple approche est complétée par un historique qui propose des points de repère pour mieux comprendre la situation actuelle des radios libres à Bruxelles. Des points de repère qui ont le mérite de rappeler l'importance, parfois oubliée, des premières radios et leur volonté de donner la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la recevoir. Le dossier évoque également l'importance de l'enjeu de la libération des ondes et le conflit qui a rapidement séparé les radios en deux camps. Celle de la LO, à caractère socio-culturel, et celle du GRIB, à caractère commercial, soutenue par l'actuel gouvernement en vue de mettre fin au monopole de la RTBF-BRT. En somme, un parfait tour d'horizon hertzien, qui a de plus le mérite de ne coûter que la modique somme de 20 francs. Renseignements au 242 60 04 ou en cas d'absence le 217 36 98 entre 17 et 19 heures. Demandez Marcel.
En 1984, je réalise avec Jacob Borzikowski du Centre Vidéo de Bruxelles un vidéogramme sur les radios libres à Bruxelles. Il n'y a plus de rumba dans l'air de Bruxelles est un documentaire. Pratiquement pas de voix off, juste un peu à la fin. Le montage se base uniquement sur les images et les interviews récoltées lors du tournage. Le titre « Il n'y a plus de rumba dans l'air de Bruxelles » m'est venu à l'esprit en évocation à un jeune homme rencontré dans un bistrot des quartiers populaires de Schaerbeek qui s'est exclamé « Il n'y a plus de hard rock sur les radios ». Ce vidéogramme me donne l'occasion d'affiner de l'intérieur ma connaissance des radios bruxelloises. À vrai dire, lors du tournage, je me sens parfois dans la peau d'une sorte d'espion industriel pour les intérêts de Radio Panique. J'ai décidé de snobber les deux têtes de liste dont la presse ne cesse de nous parler, Radio Contact chez les commerciaux, Radio Air Libre chez les non-commerciaux. Nous connaissons par cœur leurs discours. Chez les commerciaux importants, nous visitons SIS, l'agressive, et Bruxelles à terre, l'arrogante. Nous visionnons aussi de petites radios commerciales. Arc-en-ciel, perché dans un clocher d'église, et Fréquence L, oui, celle-là qui avait obligé Panique de changer de fréquence. Nous allons voir également la populiste Radio Liberté, et puis chez les radios libres non commerciales, Radio Marolles, Radios Alternatives, Radio 104, et bien sûr Radio Panique. Nous visitons enfin Claude Delacroix et sa Radio 21, alors sorte de radio locale bruxelloise de la RTBF. Il n'y a plus Trumba dans l'air. Les rencontres avec responsables et animateurs des diverses radios nous laissent en effet sur une impression de tristesse. Ça ne rigole vraiment pas dans ce microcosme des radios. D'un côté, les commerciaux, et aussi Claude Delacroix, tous assez imbus d'eux-mêmes, justifient comme ils peuvent leur choix de musique aseptisée et d'informations dites neutres. De l'autre, les représentants des radios libres, frustrés et accablés. Bien que leur radio ne soit pas reconnue et que la publicité soit toujours illégale, les commerciaux s'affichent comme les propriétaires de la bande FM. Hors la loi, certes, mais les plus forts sur le terrain. L'avenir, c'est eux. Ils n'en doutent pas. Ils insistent lourdement sur leur professionnalisme et considèrent les animateurs des radios libres non commerciales comme des oseaux, des pollueurs d'ondes. Le directeur de Radio Liberté, lui, réplique « Ce sont des grenouilles qui se prennent pour des bœufs. » Les images reflètent ce qu'on pourrait dénommer les signes extérieurs d'une différence de classe, au sens sociologique du terme. Les uns, les commerciaux, bien habillés, évoluent dans des locaux hyper fonctionnels, spacieux, bien équipés, propres, entretenus. Les non-commerciaux, au contraire, hantent des locaux minables, sales, sous-équipés, vieillots, vandalisés. C'est presque trop caricatural, mais nous n'avons rien inventé. Il n'y a plus Trumba dans l'air de Bruxelles fait le point sur le paysage des radios en 1984. Nous rencontrons le responsable du virtuel plan de fréquence à la RTT et Mary Hermanus, alors directeur de cabinet du ministre-président de la Communauté française, Philippe Mouraud.
On peut estimer que le nombre d'émetteurs FM du type radio local fonctionnant actuellement sur le territoire de l'agglomération de Bruxelles est compris entre 50 et 100 émetteurs.
Nous sommes malheureusement dans une situation que je qualifierais encore de Far West, de l'audiovisuel, puisque un certain nombre de radios locales ne reconnaissent pas les décrets de la communauté et n'appliquent pas l'arrêté royal du 20 août 1981 sur la limitation des fréquences.
Pour l'agglomération de Bruxelles, nous avons trouvé un total de 15 fréquences pour des stations de radio locale, mais ce nombre d'émetteurs doit être réparti entre les deux communautés linguistiques.
Ça, c'est évidemment le problème tout à fait majeur. L'actuel gouvernement national veut étendre la sous-bande des 104 à 108 MHz pour permettre d'y placer les radios locales, mais le ministre Mouraud refuse cette solution parce que nous avons découvert. Les radios locales constituent un phénomène spontané de gens qui décident de s'organiser pour faire de la radio. Ceci dit, les moyens de vie des radios locales sont réellement posés. C'est un problème essentiel et la commission de réflexion de l'audiovisuel présidée par Mme Irène Petri a remis un rapport. C'était au mois de mars, je pense, le 13 mars, qui conclut au fait que les radios locales devraient, pour subsister, soit faire appel à la publicité, soit celles locales, soit celles qui refuseraient de faire appel à la publicité devraient pouvoir bénéficier de retombées de cette publicité. C'est l'idée d'une espèce de caisse de compensation entre les radios faisant de la publicité et celles qui ne la feraient pas. Mais il est évident que ce système doit encore être organisé, n'est pas par moment ce que nous faisons.
Dans le vidéo « Il n'y a plus Trumba dans l'air », nous venons interviewer des animateurs de radio Arc-en-Ciel, une radio commerciale de moyenne envergure, dont l'antenne est fixée sur le clocher d'une église de Skarbek, Sainte-Suzanne, et dont le studio est aménagé dans le jubé de l'église. Soudain, le curé de la paroisse survient. Nous en profitons pour l'interviewer à son tour. Écoutez bien, c'est pour le moins rocambolesque.
Une petite minorité trouvait que mettre une antenne sur une croix, c'était un sacrilège. Ce que personnellement, j'ai toujours refusé d'admettre, étant donné que si, par exemple, on devait admettre un paratonnerre sur la croix, ce serait tout aussi défavorable aux yeux que cette antenne.
La hauteur, c'est très important, bien sûr, c'est-à-dire que plus on émet de... en hauteur, je voudrais, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, au plus loin on va. Et je crois que quand on est une radio qui essaie d'être une radio la meilleure, ça passe par la publicité d'une part, ça c'est un avis personnel. Bon, nous on en fait, et c'est très important de passer le plus loin possible.
Dans l'autorisation initiale, il était dit qu'il était défendu de faire de la publicité. Mais étant donné que nous avons constaté que la plupart des radios ne peuvent plus vivre sans publicité, pour le moment, nous fermons les yeux. Je les héberge, mais ça c'est leur affaire. Le jour où la RTT vient ici, où la justice vient ici et qu'on me demande les clés de l'église, j'ouvre l'église. Le reste ne me regarde pas. C'est leur droit de venir, d'entrer dans l'église, s'ils me le demandent.
Vous pensez que ça peut arriver?
Mais c'est déjà arrivé.
Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert la porte de l'église, j'ai dit, mais montez. Mais tout était parti. Parce que, ils s'en sont rendus compte, leur émetteur était beaucoup trop puissant. Un jour, j'avais pris Radio Arc-en-Ciel, et au lieu d'avoir à la même longueur d'onde Radio Arc-en-Ciel, j'avais Zaventem qui annonçait, attention, attention, ici Zaventem, un avion atterrit. Donc c'était bien une preuve manifeste qu'à ce moment-là, Arc-en-Ciel était sur une ligne de Zaventem. Donc c'était pour le bien public.
Voulez-vous connaître la manière de fidéliser l'auditeur? Écoutez la recette que nous livre le directeur de Bruxelles Inter. Bruxelles Inter, une radio aujourd'hui disparue, mais qui en 1984 visait à rivaliser avec Radio 21.
Nous avons sélectionné l'adulte par définition et l'adulte d'un niveau social élevé, de sorte à ce que notre auditoire puisse à la fois posséder un pouvoir d'achat, mais aussi en disposer. À savoir que si vous observez nos confrères, vous verrez que l'on propose de la chanson française durant une première tranche le matin, imaginons entre 9h et 10h. Après quoi, on propose une autre tranche d'une heure, 2h, 3h, d'un autre type musical qui est aux antipodes du premier. Je pense à du rock'n'roll. Bien. Après quoi, on propose quelque chose d'encore plus agressif, quoi que ce soit, disons la New Wave. On revient à une période de jazz et on terminera encore avec un quatrième ou un cinquième thème musical différent. Bien. Le problème est que il s'ensuit inévitablement une permutation du public. Imaginez un public qui ne soit là que pour écouter Brel ou Brassens, par exemple, et à qui l'on propose du disco juste ensuite. S'il n'aime que cela, il va quitter immédiatement, il va syntoniser une autre station pour retrouver ce qu'il cherche, donc ce Brel, ce Brassens. Bien. Et ainsi, toute la journée, le public permute d'une station à une autre. Bien. C'est un énorme problème. Le phénomène n'est pas neuf, il existe de tout temps, et les professionnels européens ou nord-américains et même ailleurs ont trouvé solution à ce problème. En Belgique, il semble que l'on n'ait pas encore compris.
Et vous travaillez dans ce sens?
Nous travaillons dans ce sens. Alors, ce que nous faisons, nous avons élaboré donc un format musical qui est unique. Nous disons donc, c'est ce que l'on appelle un format musical unique. À savoir que, très schématiquement, nous passons un peu la même chose 24 heures sur 24.
Lors de la première du vidéo « Il n'y a plus de rumba dans l'air de Bruxelles » en janvier 1985, aussi bien les acteurs des radios commerciales que ceux des radios libres non commerciales sont déçus. Je comprends très bien la déception des premiers. Le montage révèle la vérité de leur discours, un discours enflé et méprisant, un discours d'entrepreneur promouvant une marchandise à destination de la clientèle recherchée. Comment expliquer la déception des autres? Rappelons-nous la position controversée d'Yves Jongen dans la Lo. Il s'était fait éjecter en 1983 par la partie pure et dure des représentants des radios libres parce qu'il avait pactisé avec le diable, c'est-à-dire le GRIB. Le vidéo commence abruptement par un extrait d'interview de Yves Jongen, filmé par hasard au soleil à son avantage, quelque part sur la terrasse de la cité administrative. Il a l'air très détendu et s'exprime sans passion comme d'une chose entendue.
Je suis venu à Radio Herli parce que je croyais que c'était la radio de mes rêves. Finalement, la réalité n'a pas correspondu tout à fait à ça, bien qu'il y avait dans le projet d'Herli, il y a toujours dans le projet d'Herli des tas de choses qui m'attirent. Je sais pas, je voudrais une radio qui à la fois a un projet politique très clair, qui se positionne vraiment comme une radio d'expression, comme un espace d'expression ouvert, mais à la fois où les gens seraient prêts à se donner les moyens, et je dirais ça inclut se donner la discipline personnelle pour pouvoir atteindre ce but. Moi, ce qui m'a toujours un petit peu déçu dans les radios locales, c'est la différence entre les grands buts qu'on se donnait et finalement l'incapacité, le manque de moyens que l'on refusait de s'accorder pour atteindre ce but.
Une grande partie du vidéo fait se refléter, avec des nuances bien sûr, deux imaginaires. Celui des commerciaux visant l'audience la plus grande possible, avec le programme musical qui heurte le moins, une sorte de musique américaine blanche, rythmée, mais sans excès. Et puis, il y a l'imaginaire des animateurs de petites radios qui donnent l'impression d'être sans ambition, de vouloir rester petite, par souci de proximité et de convivialité. Ainsi, à l'arrivisme un peu écœurant des entrepreneurs de radio commerciale, répond une sorte de résignation misérabiliste et sans envergure. Comme si les valeurs de proximité et de convivialité éclipsaient toute sensibilité médiatique plus pointue. C'est ainsi que le directeur de Radio Liberté énonce que, même si c'était envisageable, il ne désire pas avoir les moyens et l'audience des grandes radios comme Contact ou SIS, parce qu'alors, il n'aurait plus le bonheur de bavarder avec des auditeurs qui téléphonent.
Une grande radio, je ne pense pas qu'ils aient, malheureusement pour eux, je ne pense pas qu'ils aient encore le temps d'être très proches de leurs auditeurs. Ils n'ont plus la possibilité de le faire. Même s'ils le veulent, ils ne savent plus le faire. On ne peut plus écouter l'auditeur quand on devient trop grand. C'est impossible.
Une vache normande, la première, elle est blanche, elle a des taches brunes sur le dos. La deuxième est toute brune, elle est toute petite. Eh bien voilà, moi je les ai appelés comme ça. Le grand méchant loup et le petit loup. Voilà. Et je crois qu'elle m'écoute. D'ailleurs, voilà, le téléphone sonne peut-être. Est-ce mon chien qui me téléphone? Ça m'étonnerait qu'il ne s'est pas encore composé sur le récepteur. Mais enfin, voilà.
Le vidéo chambre un peu facilement Radio Marolles et Radios Alternatives qui apparaissent autocomplaisantes dans leur petitesse respective, populiste chez les premiers, provocatrice chez les seconds. Les animateurs de Radio Panique sont les seules figures qui apparaissent joyeuses. Mais quel contraste lorsque l'un d'eux énonce « on veut attaquer le racisme de manière moderne » et que la caméra s'apesantit sur la misère du local et de la régie technique. Vers la fin du vidéo, Yves Jongen réapparaît, après que Jacques Cazier, son successeur à la présidence de l'ALO, et y rappeler la ligne pure et dure. Radio sans ingérence politique, sans publicité.
Finalement, pour moi, le truc important, c'est le projet des radios. Et une radio à projet, une radio qui se veut un espace d'expression, pour moi, pourrait être telle, même si elle fait de la publicité à côté. Je dirais qu'on a été un peu simpliste, un peu manichéen à ce sujet-là. Bon, je l'ai été moi-même. Je dirais qu'au niveau, étant président de l'ALO, j'étais un peu le porte-parole des idées de l'ALO sur le sujet. Maintenant, je regrette un certain nombre de choses que j'ai dit à ce niveau-là. Je trouve que c'était un peu simpliste. Je crois que c'est possible de faire une radio à projet qui consacrerait une certaine portion de son temps à une certaine publicité. Pas n'importe laquelle, mais je crois qu'on a été très simpliste sur ce sujet-là. Je crois que c'est plus compliqué que ça.
Est-ce cela qui déplaît aux radiolibristes de la première heure? Le sens du vidéogramme, il n'y a plus trop de main dans l'air. Est-il de renvoyer tout le monde dos à dos, responsable du ministère fédéral des RTT et responsable de la communauté française? Radio commerciale et radio non commerciale, tous impliqués dans la mise à mort d'une pratique radiophonique digne d'intérêt. On peut le percevoir comme cela. Reste cependant le commentaire final que je rédige et prends à mon compte. Quelque part, le salut viendra non du microcosme, mais de l'extérieur.
Il était une fois des radios qui naissaient et mouraient avec la mouvance qui les portait. Des radios où la liberté et le plaisir faisaient bon ménage. Il était une fois une volonté de casser le monopole de la RTBF. Les radios étaient domestiquées et les auditeurs devenaient des clients. Il était une fois une partie de ping-pong interminable entre l'État et la communauté, entre la culture, la RTT et la justice. Il était une fois presque trop tard, car les pionniers étaient fatigués et le rapport de force était trop inégal. Jamais trop tard, car dehors grondait une multitude de sons nouveaux et de voix pas encore entendues.
En avant-première, je fais visionner le vidéo à Roger Noël, dit Babar, et à Daniel Sotio, deux des personnes les plus impliquées dans le mouvement des radios libres à ses débuts. Après la vision, il pleure presque. « Eh oui, exprime-t-il, c'est bien la réalité actuelle. Rien à dire. Et ils n'en diront pas plus. » Il n'y a plus Trumba dans l'air sera sélectionné au Festival du Réel à Beaubourg et à un festival de vidéo-art à Den Haag en 1985. La même année, il figure au programme du Festival Vidéo de Bruxelles, filmé à tout prix. La stratégie de faire connaître Radio Panique par des moyens extra-radiophoniques culmine avec l'organisation d'un colloque international sur les enjeux des radios, en novembre 1985. Il s'appellera « Pour quelques watts de plus ». Mon idée est que notre débat sur les radios doit prendre un peu de hauteur et être éclairé par une mise en perspective en provenance des sciences humaines. Je suis lassé par la problématique institutionnelle et par la problématique de la publicité, très et peut-être trop dominante dans le vidéo « Il n'y a plus Trumba dans l'air ». Il faut sortir de notre microcosme mental. Certes, pour percevoir et faire résonner ces cris et ces sons auxquels le vidéo fait référence à son terme, mais aussi pour entendre ce que des théoriciens du mouvement social et des médias peuvent nous dire. Le but est donc de se distancier un moment de la pratique quotidienne et des imprécations des uns et des autres pour analyser de manière critique ces dernières, et voir si et comment il est possible de sortir du marasme actuel. Je passe plusieurs mois en 1985 à préparer ce colloque que l'on veut aussi prestigieux que possible. Radio Panique va faire vitrine. Le colloque aura lieu au Botanique. Panique va donner le change par rapport à son existence de misère sur le terrain proprement radiophonique. Panique va acquérir une sorte de légitimité incontestable sur la scène bruxelloise. Je voudrais comme conférencier vedette Jean Boudrillard et Félix Guattari. Jean Boudrillard est un sociologue de la communication. On cite souvent la conclusion de ses analyses sur les médias. Toute l'architecture actuelle des médias se fonde sur cette définition. Ils sont ce qui interdit à jamais la réponse, ce qui rend impossible tout procès d'échange, sinon sous des formes de simulation de réponse, elles-mêmes intégrées au procès d'émission, ce qui ne change rien à l'unilatéralité de la communication. C'est là leur véritable abstraction, et c'est dans cette abstraction que se fonde le système de contrôle social et de pouvoir. Félix Guattari est psychanalyste, connu pour ses activités à la clinique de la Borde, qui expérimente la réinsertion des malades mentaux par des activités socioculturelles libres. Félix Gotari est connu aussi par ses publications, partiellement écrites en collaboration avec Gilles Deleuze, lesquelles proposent une alternative valable au marxisme dans l'après-mai 1968. En outre, Félix Gotari fait partie des personnalités qui appuient l'Association pour la libération des ondes en France en 1979. Il a participé à l'expérience autogestionnaire de Radio Tomate à Paris en 1981. Il est piquant de remarquer que cette radio n'eut qu'une existence éphémère, car les animateurs issus de l'intelligentsia parisienne passent plus de temps en séance de discussion qu'à l'antenne. N'empêche, ce fut une unique expérience de présence de la haute culture sur une radio libre. Félix Gotari s'est solidarisé aussi avec l'expérience subversive de Radio Alice à Bologne, interdite en mars 1977. Lors des manifestations d'étudiants, elle avait renseigné ces derniers sur les mouvements de la police. J'écris à Jean Baudrillard et Félix Gotari, puis leur téléphone longuement à plusieurs reprises. Hélas, pour des raisons diverses, ils ne pourront pas venir. Félix Gotari me conseille de faire appel à Franco Berardi, que je ne connais pas encore, et qui est un des théoriciens acteurs du mouvement révolutionnaire en Italie, impliqué dans l'histoire des radios libres. Je m'adresse alors au CRISP, il nous faut une analyse des radios d'un point de vue socio-économique. Evelyn Lensen, l'actuelle présidente du Conseil supérieur de l'audiovisuel, répondra présente. Frédéric Antoine, professeur en communication sociale à l'UCL et à l'IAD, responsable par ailleurs de Radio 1180, viendra parler du contexte psychosocio-culturel des radios libres. Enfin, pour traiter de l'information sur les radios, on me conseille de faire appel à un professeur de l'Université de Rennes, Alain Calmès. Je demande à Michel Joquet, futur directeur de Télé Bruxelles, de présider le colloque. Ce choix d'une personnalité socialiste de l'audiovisuel n'est pas innocent de la part d'une radio que d'aucuns considèrent, à tort d'ailleurs, comme émanant du mouvement ouvrier chrétien. Des mois durant, je m'occupe de la préparation intellectuelle et matérielle de ce colloque. L'appoint logistique du mouvement ouvrier chrétien, via Gérald Dujeu et ses équipes populaires, ouvre beaucoup de portes pour financer le colloque par des subsides et du sponsoring. Il y aura même du bénéfice pour la radio. Ouf ! Luc Roussel est ravi d'une entreprise qui va lui permettre de profiler son type d'engagement dans les radios. Mais à part lui, personne à Radio Panique ne semble vraiment comprendre l'enjeu du colloque, ni s'y intéresser. Au contraire, son organisation serait plutôt perçue comme un abandon de la radio. Le colloque durera une journée entière, le 16 novembre 1985. Outre des conférences, il comportera des témoignages, notamment de l'émission Passe-Muraille de Radio Air Libre, diverses tables rondes, une installation de radio-art gérée par Guy Stukens des radios alternatives, la présentation d'un futur réseau des radios libres en Europe, des séances vidéo, etc., etc. Environ 150 personnes participent. C'est un succès quand on sait que le prix d'entrée est de 500 francs. Qui vient ? Les ministres concernés par l'audiovisuel déclinent l'invitation. Pas grand monde du côté de la RTBF. Quelques responsables ou animateurs de radios commerciales. Beaucoup de représentants des radios libres associatives, mais très peu de radios paniques. Pas mal de professeurs et d'étudiants en sciences de la communication et de l'information. Des représentants des associations de l'audiovisuel. Quelques personnes du monde chrétien progressiste. Et puis d'autres encore, je ne sais à quel titre. Peut-être aussi des auditeurs de radio. Dans l'histoire des radios libres en Belgique, un tel type de rassemblement est resté unique. La presse y fait écho. Des actes seront publiés. Et c'est à partir de ces actes que nous construisons le débat qui va suivre. Hélas, les enregistrements sonores du colloque ont disparu à jamais lors d'un vol perpétré à Radio Panique quelques années plus tard. Extrait des débats tenus lors du colloque organisé par Radio Panique en novembre 1985 sur l'avenir des radios libres d'expression en Belgique. Gabriel Tovron.
Est-ce que le libéralisme dur et pur est une vague passagère liée à la crise ou une lame de fond ? Comment préserver un espace de liberté entre les pressions conjointes ou alternées du privé et du public ?
Jean-François Dumont.
On voit bien comment les radios commerciales s'inscrivent dans le schéma économique, mais comment les radios non commerciales s'inscrivent-elles dans le circuit économique ?
Je suis animateur à Air Libre. Cette radio ne fonctionne que par les cotisations de ses animateurs et de ses auditeurs. Air Libre veut garder cette orientation et ne recherche pas de subventionnement.
Evelyne Hansen.
C'est un mode de financement comme un autre. Je ne crois pas que la privatisation soit absolument inéluctable. On peut très bien décider de rester petit, très proche d'un public avec lequel on a une connivence. On peut vivre avec 100 millions ou avec 1 million. Ni l'imagination, ni la qualité du produit ne sont directement proportionnels à la somme d'argent dont on dispose.
Michel Jocquet.
Comment les radios qui ne rentrent pas dans le schéma de la privatisation pourraient-elles continuer à vivre ?
Jacques Cazier.
Le problème est de savoir non si elles peuvent vivre, elles le prouvent depuis des années, mais si on va essayer de cesser de les faire mourir.
Une animatrice de Radio Libre Terroir, je pense.
Je pense qu'il vaut mieux avoir une centaine d'auditeurs qui écoutent plutôt que des milliers qui branchent leur radio en bruit de fond. Les radios d'expression peuvent avoir moins de moyens financiers que les radios commerciales, mais elles doivent avoir assez de moyens pour ne pas devoir mourir.
Gabriel Tovron.
Oui, je crois que le problème est de savoir comment se battre. Jusqu'ici, les radios libres se sont battues en existant et en affirmant qu'elles existaient dans le monde des ondes. Si les difficultés s'accroissent comme c'est probable, elles doivent passer à un autre niveau de bataille. Je crois qu'elles devraient essayer de lancer ensemble un grand appel au public, de constituer une coopérative, de faire des appels de fonds.
À l'animateur de OSR, Soigny.
Les équipes de Radio Libre n'arrivent pas à se mettre en question et n'envisagent pas de nouvelles stratégies. Vis-à-vis de nos auditeurs, on se heurte à deux problèmes. Problème de motivation et problème de mobilisation. Il ne faut pas se contenter de la légalité et espérer que l'argent va nous tomber du ciel. Faire de la pub est une solution de facilité. Il y a de nouvelles stratégies à adopter.
Jacques Cazier.
C'est vrai qu'il y a actuellement un manque cruel de stratégies du côté des radios non commerciales. Le problème est que toutes les stratégies qu'on a pu développer depuis 2 ans n'ont trouvé strictement aucun répondant du côté des pouvoirs politiques. Au contraire, les radios commerciales ont leur répondant politique, le PRL et une partie du PSC. Nous, nous sommes satisfaits avec le décret de 81. Pourquoi changerait-on de discours ? Mais ce sont nos théoriques alliées objectifs sur le plan politique qui n'ont pas suivi.
Le professeur Alain Calmet.
Les radios qui ne jouent pas le jeu de la stratégie commerciale ne doivent-elles pas tout naturellement recevoir des subventions ? Qui dit financement par les auditeurs peut aussi bien dire financement par les citoyens.
Il y a une radio au Québec, CKRL, qui est en train de crever parce qu'elle s'est fait subsidier par les pouvoirs publics pendant 10 ans et qu'on lui supprime aujourd'hui ce genre de financement. Moi, je pense que la publicité et le financement de l'État mènent les radios libres à s'uniformiser ou à crever.
Frédéric Antoine.
On disait « faire de la radio, ça ne coûte pas cher bon, ». C'était un argument important. Peut-être qu'en effet, la radio ne coûte pas cher, mais on se trouve dans un système où ça commence à coûter cher.
Je voudrais demander à M. Jocquet pourquoi les pouvoirs publics ont choisi de s'investir dans les TV communautaires et non dans les radios, alors qu'ici, les coûts sont infiniment moindres.
Michel Jocquet.
Les TV communautaires se sont développées en 1974-1975. Les pouvoirs publics ont répondu à une demande sous la pression de la part d'un certain nombre de groupes qui avaient une pratique de vidéo-animation et qui réclamaient le câble. C'est la première fois que les pouvoirs publics réagissaient à une revendication audiovisuelle. Bien sûr, cette réponse a été qualifiée de récupération, d'intégration. Les radios sont venues après, comme d'autres revendications, et il n'y a plus eu de réponse.
Frédéric Antoine.
Dans le cas des TV communautaires, on voit un État prendre les devants pour éviter l'émergence de médias incontrôlables. Dans le cas des radios, tous les États européens ont été pris de court. Les radios ont joué au coup d'État, elles sont apparues comme des éléments insurrectionnels. Dans tous ces pays, les pouvoirs courent après les radios, s'efforçant de leur donner un cadre juridique, technique, légal, sans jamais y parvenir de manière satisfaisante, car la radio est en mutation permanente.
Extrait des débats tenus lors du colloque organisé par Radio Panique en novembre 1985. Résumé de l'exposé de Frédéric Antoine sur le mouvement social qui a porté la mouvance des radios libres.
Les années 70 sont celles de l'intégration dans la société en voie de post-industrialisation, des revendications du mouvement social telles qu'exprimées par les nouvelles gauches lors des années 60. Comme Touraine le montre, ces revendications débordent celles du mouvement ouvrier traditionnel en s'attaquant au tissu culturel, vie urbaine, écologie, sexualité, éducation, autorité, communication, etc. Ce mouvement social bouleverse les formes d'autorité et de pouvoir devenues anachroniques sur la base de la progression technique et industrielle. Dans le domaine de la communication en particulier, Baudrillard a démontré que les mass médias sont façonnés de telle sorte qu'ils empêchent toute corrélation personnelle de l'un et de l'autre dans l'échange. Les nouveaux médias qui apparaissent dans les années 70 sont immédiatement adoptés comme support par les acteurs du mouvement social En Marche. Pendant un temps très court, on assistera à la coïncidence objective, mais peut-être fortuite, entre d'un côté de nouveaux enjeux sociaux, de nouveaux terrains de revendication qui continuent à se développer, avec le souhait d'une parole plus libre, et de l'autre, l'émergence des radios pirates. Les premières radios d'animation se situeront à la fin de notre âge d'or, identifiées aux valeurs de la convivialité, Illich, et du local, Small is Beautiful, de Schumacher, est traduit en français en 1978. C'est déjà un retrait. Le pôle revendicatif s'efface pour simplement affirmer qu'on est quelque part. La radio libre accepte de n'être que radio locale. Le mirage a été de croire que les choses ne changeraient pas, et donc que la fonction des nouveaux médias était un acquis permanent. L'optimisme des années 70 va progressivement céder la place à un pessimisme démesuré. Le champ des luttes se raréfie. La conscience de la crise économique laisse émerger les politiques d'austérité et donne le champ libre aux stratégies néolibérales. Le drame actuel des radios libres d'expression du début est que leur légalisation est survenue trop tard, à un moment où la société avait déjà basculé et où logiquement la radio objet culturel a fait place à la radio objet de consommation et objet économique. La notion d'audience, c'est-à-dire de marché, a pris une importance qu'elle ne possédait pas lors de la naissance des radios libres. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le débat sur l'audience occulte tout le reste du champ de la créativité et des contenus de ce type de radio. Le néolibéralisme cherche à dérégulariser les anciens équilibres. Les radios sont passées à une phase offensive contre les radios nationales. Les pouvoirs sont dépassés et se soumettent eux-mêmes aux critères de l'audience et de libre entreprise en matière de radio. Y a-t-il encore un avenir pour les radios d'expression ? La civilisation de l'individualisme peut être une chance pour un certain type de radio, moyen de communication de l'intimité, ou mode d'appartenance à une communauté spécifique.
Extrait des débats tenus lors du colloque organisé par Radio Panique en novembre 1985 sur l'expérimentation et les nouveaux langages radiophoniques. Frédéric Antoine.
Jusqu'à présent, les radios locales se sont contentées de reproduire le langage des autres médias ou de se positionner comme l'anti-langage. Ne serait-il pas temps de voir si un autre langage n'est pas possible ? À mon avis, il est temps de s'en préoccuper.
Jean-François Dumont.
Pour être un peu brutal, on peut se demander si une radio alternative, une radio militante ou une radio d'expression doit d'office être une radio ennuyeuse.
Ce qui empêche les radios libres de passer, ce n'est pas tellement la forme de leur message. Je crois qu'elles ont fait énormément de progrès de ce côté-là. Mais le fait politique qu'à un certain moment, les instances politiques ont empêché la création d'un créneau de la radio d'expression alors qu'il y avait moyen de le développer.
Jean-François Dumont.
Il me semble qu'il faut distinguer entre professionnalisme et qualité de la mise en onde, l'un n'étant pas nécessairement le fait de l'autre.
Frédéric Antoine.
Bon, j'ai l'impression qu'il existe comme une grammaire des ondes. Si on écrit un journal à l'envers, on ne saura pas le lire. C'est semblable pour la communication radiophonique. Il faut se mettre d'accord sur des normes de communication, jouer alors dans ces normes,
et atteindre le niveau où on peut dire qu'il y a communication.
Michel Jonquet.
Quel choix opérer lorsqu'une lutte se passe dans le champ social ? Soit de s'appuyer sur un grand média, public ou privé. Il y aura peu d'informations, mais on bénéficiera d'une grande audience. Soit on se dit qu'il faut donner beaucoup plus au service de la cause, et à ce moment-là, on touche moins de monde.
Lorsque j'entends ce qui se fait dans des radios non commerciales d'Amérique du Nord et d'Europe, je dois constater que ce ne sont pas nécessairement les radios les plus professionnelles qui ont fait le plus de recherches au niveau des nouveaux langages radiophoniques, ou ce qu'on appelle comme ça. C'est dans des radios qui ont relativement moins de moyens que cette recherche se fait, qu'il y a des expérimentations, qu'il existe des choses tout à fait dingues, des sons bizarres et curieux qui peuvent effectivement capter l'auditeur. On se dit que toute une réflexion a dû se faire dans ces radios qui, au départ, étaient souvent des radios de lutte et des radios de revendication. Elles ont compris que si elles voulaient encore avoir des auditeurs à côté des radios commerciales techniquement impeccables, mais nulles du point de vue contenu, elles devaient revoir leur manière de faire des émissions.
Félix Guattari, La Révolution moléculaire, page 378. Il faut partir historiquement de la crise de l'extrême gauche italienne après 72, en particulier d'un des groupes les plus vivants sur le plan aussi bien théorique que pratique, Potere Operaio. Toute une mouvance de l'extrême gauche va donc se disperser lors de cette crise, mais c'est pour animer des mouvements de révolte dans différentes autonomies, nom que le vocabulaire italien donne aux secteurs particuliers, femmes, jeunes, homosexuels, etc. Se créent alors des cercles politico-culturels, comme à Bologne, le Gatto Selvaggio, le chat sauvage, dont sortira, en 1974, l'initiative de Radio Alice. Après la phase de dispersion s'ébauche un processus de recomposition du mouvement, mais également très important dans le nouveau vocabulaire italien. Radio Alice est une radio dans le mouvement. Après la suppression du monopole d'État, 1000 radios indépendantes vont se développer de l'extrême gauche à l'extrême droite ou se faisant les porte-paroles de tel ou tel secteur particulier. L'originalité d'Alice est de dépasser le caractère purement sociologique, pourrait-on dire, de ces dernières et de s'assumer comme projet. Radio Alice rentre dans l'œil du typhon culturel, subversion du langage, parution d'un journal à Treverso, mais elle est également directement plongée dans l'action politique qu'elle veut transversaliser. À Bologne, au début, on n'était pas plus d'une centaine, on tournait un peu en rond, et Radio Alice a catalysé un processus, quelque chose qui n'est pas un trait commun, mais comment dire autrement ? Oui, un processus a traversé les diverses autonomies. Lycéens, féministes, homosexuels, travailleurs émigrés du Sud. Alors ont commencé à prendre de grands développements les mouvements d'autoréduction et d'appropriation, le refus du travail, l'absentéisme, etc. En 1976, Bifo, un des principaux animateurs de Radio Alice, a été arrêté pour instigation morale à la révolte. Tout cela a abouti aux émeutes de mars 1977. Alors, ce fut la fêlure. Toute la vitrine du communisme New Look en miettes, 30 années de bonne conduite et de loyaux services perdus, déconsidérés aux yeux de la bourgeoisie. On croyait jusque-là que le PCI et les syndicats sauraient tenir le peuple mieux que quiconque. On disait par exemple « In Chile i carri armati, in Italia i sindacati ». Mais Zingheri, le maire communiste de Bologne, a fait appel aux forces répressives sous leurs formes les plus violentes. Il a fait entrer des blindés dans la ville. Il a personnellement exhorté la police au combat sur le thème « Allez-y, c'est la guerre, ces gens-là doivent être éliminés, ils se sont exclus d'eux-mêmes de la communauté ». On était 15 000 dans la rue. Jamais on n'avait vu ça à Bologne. Alice nous tenait au courant à chaque instant de tout ce qui se passait, par l'intermédiaire de copains qui téléphonaient et auxquels on donnait l'antenne en direct. Tous les procès et arrestations qui ont suivi ont été motivés par ce rôle militaire d'Alice. La police a liquidé Alice. Ses animateurs sont pourchassés, condamnés, emprisonnés. Ses locaux ont été pillés. mais son travail de déterritorialisation révolutionnaire se poursuit inlassablement jusque dans les fibres nerveuses de ses persécuteurs. Il n'y a rien de constructif dans tout cela. Peut-être, et d'ailleurs ce n'est nullement évident. Mais le problème n'est pas encore là. Le point de vue des Aliciens sur cette question est la suivante. Ils considèrent que le mouvement qui parviendra à détruire la gigantesque machine capitalistique bureaucratique sera a fortiori tout à fait capable de construire un autre monde. La compétence collective en la matière lui venant en cours de route, sans qu'il soit nécessaire, à l'étape actuelle, d'échafauder des projets de société de rechange.
Extrait des débats tenus lors du colloque organisé par Radio Panique en novembre 1985. La libération communicationnelle ne s'opère pas par un média seul. Franco Berardi nous plonge dans l'expérience italienne du mouvement des radios. Au moment de la libération de la communication et à la construction d'un réseau autonome, suit la conquête économique du champ ouvert, aboutissant à d'énormes concentrations comme celle de Berlusconi. Il faut retenir que l'expérimentation dans le champ de la communication est intéressante au niveau du processus de changement culturel et politique, mais qu'elle crée en même temps les possibilités d'intervention des groupes économiques. Franco Berardi étonne l'auditoire en affirmant que la lutte au niveau des seules radios est une lutte dépassée.
La bataille pour la libération de la communication doit désormais se passer à travers la prolifération de pratiques utilisant moins le média radio que des expérimentations artistiques de diverses natures et des pratiques de mélange entre la vie et la communication.
Il y a un lien entre ces nouvelles pratiques et l'écologie dans la mesure où celle-ci est lutte contre la pollution mentale et sa forme la plus forte dans les masses médias, la télévision. On ne peut plus s'opposer à un média hyperpuissant par un autre média, fût-il autonome et contre-informatif.
Il faut plutôt créer des événements, des signes capables de circuler dans le circuit médiatique et capables d'en faire sauter la contradiction ou d'en détourner le fonctionnement. Ces expérimentations micro-communicationnelles doivent hyper-proliférer au niveau de la vie quotidienne.
Le mouvement révolutionnaire italien a subi une grande défaite, Monsieur Berardi.
Actuellement, le mouvement vise à dépasser le concept de révolution par celui de sécession schismogenèse. Nous sommes convaincus que le combat contre le capitalisme est un combat définitivement perdu. Le capitalisme est un destin auquel l'humanité est condamnée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réfléchir sur la possibilité de libération d'une manière entièrement nouvelle. Il faut envisager non la reconstruction du mouvement ouvrier, mais la construction d'un nouveau mouvement social, lié notamment aux pratiques sur le travail d'information. Pour cela, il ne faut plus utiliser les anciens moyens d'organisation, mais œuvrer sous des formes microphysiques, micropolitiques, c'est ce que je crois.
Frédéric Antoine.
Le problème des radios libres d'expression résulte fondamentalement du fait que dans les années 80, pour se trouver une place spécifique par rapport aux médias devenus dominants, la télévision, qui lui a dérobé ses fonctions traditionnelles de pourvoyeuse d'information et de divertissement, la radio s'est transformée en bruit ritualisé, accompagnant la journée du Belge moyen. Il n'y a plus qu'à tenir un rythme, comme c'est le cas du format Music and News.
Jean-Marie Lacrosse.
En gros, on voit émerger deux pôles, le pôle de l'indifférence et le pôle de la différence. Lipovetsky, dans son livre sur l'individualisme moderne, L'ère du vide, accorde une grande importance à cette notion d'indifférence. On peut avancer que les radios privées, style Music and News, avec leur caractère répétitif, sont liées à cette forme d'indifférence qui existe cool. Le style cool, qui est celui de la deuxième vague de l'individualisme qui nous a brusquement envahis depuis le début des années 80. Il y aurait là un processus comparable, par exemple, à l'œuvre dans ces grands rituels de masse que sont les 20 km de Bruxelles, où il y a indifférence et course à la fois. Tous font la même chose et tous sont totalement indifférents les uns aux autres. Les radios libres que l'on dit agonisantes seraient celles de la différence. Le rêve de la mobilisation des années 70 est peut-être brisé, mais les possibilités restent. Il faudra trouver sa place et sa stratégie.
Le professeur Berardi.
Oui, Jacques Lavallée a écrit qu'il y a deux grands modèles communicationnels. Le modèle télévisuel, centrique et centré, est le modèle du téléphone plus démocratique, plus adéquat à la diffusion de l'informatique et de la télématique. Quand je parle de prolifération, cela veut dire établir un lien bidirectionnel entre toi et moi, un lien qui peut se multiplier jusqu'à gagner un espace social, donc une capacité de communication plus forte que la télévision. C'est l'histoire du Minitel en France.
Jean-Marie Lacrosse.
Est-ce bien exact qu'il y a actuellement une prééminence du visuel sur le son?
Frédéric Antoine.
Quand on consomme du cinéma ou de la télévision, ce qui frappe d'abord, c'est l'image. Et le son n'est qu'un support apporté sur l'image. Le télétexte, idem. Je n'ai pas l'impression qu'on se dirige vers une civilisation du son. C'est dommage, parce que l'image est tautologique par rapport à elle-même. Tandis que le son est créatif, et il est plus intéressant d'illustrer par le son que par l'image.
C'est la chanson des babas. Qui parle, qui parle, c'est la chanson des bavards qu'on entend sans vouloir. Incorrigible bavard, bavard. Quand il commence à cappella, jamais de silence, il n'arrête pas, coupe la parole et c'est pas drôle. Ils postillonnent longue parabole, ils interviennent sans intérêt, veulent qu'on les écoute, discours abstraits, seuls contre tous, des antithèses, ils se gargarisent, manque de synthèse, bavard. Bavard, incorrigible bavard, on entend sans vouloir.
Je passe l'essentiel de la journée du colloque organisé par Radio Panique au Botanique le 16 novembre 1985 à accueillir et guider les participants et à veiller que tout se passe bien. Le rôle représentatif de Radio Panique est assumé par Luc Roussen. Il passe l'essentiel de la journée sur la scène de l'Orangerie, où se trouve le panel des conférenciers. Je parcours des kilomètres et des kilomètres tout le long des serres où Guy Stukens a installé son exposition de Radio Art, ce Radio Network Show. 35 œuvres sonores, très alternatives, sont en effet diffusées sans arrêt et simultanément sur une dizaine d'émetteurs étalés tout le long de l'espace. Dans ces conditions, je ne profite guère de la journée quant à son contenu. Je ressens qu'il y a une ambiance positive. La multiplicité des contacts en petits groupes en est l'indice. Heureusement pour moi, il y aura les enregistrements à écouter, à monter et à émettre sur Radio Panique. En fin de journée, je suis fourbu et malgré le succès évident, je déprime. Je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai plus envie de m'occuper de radio. J'ai envie d'aller dormir. Mais il reste encore la soirée. La soirée. J'avais pensé que ce serait une bonne idée de terminer la journée du colloque par une soirée festive et dansante dans un lieu proche du Botanique. Étant bloqué toute la journée par le colloque, j'ai demandé à Carlos D'Amata et Vincent Dozo, les protagonistes de notre sono, de préparer cette fête. J'imaginais qu'après tous les discours et les parlottes, une bonne partie des participants au colloque auraient envie de festoyer. Carlos et Vincent se sont beaucoup investis pour créer un décor festif dans un lieu proche. Ils ne sont pas venus au Botanique, ils ne sont donc pas au parfum du succès de la journée. Ils sont complètement décalés. Après avoir pris congé des invités au colloque, j'arrive enfin. La soirée est déjà entamée. Le choc. Je constate qu'il n'y a quasi personne. Ni les participants à la fête, ni les animateurs, ni les sympathisants de la radio ne sont venus. Mes amis me toisent avec un regard noir, comme si j'étais responsable de ce flop. C'était pourtant eux qui devaient s'occuper de la promotion de la fête. Nous avons même des mots entre nous. Je suis écœuré et triste. Après les fastes d'une journée où l'on pouvait avoir l'impression que nous, petite Radio Panique, évoluions quand même à un certain niveau de la scène culturelle bruxelloise, c'était là être directement confronté à notre misérable réalité, celle de l'absence criante de culture associative solidaire, celle de l'absence de mouvance sociale pour nous soutenir.
un avion sans air. J'ai chanté toute la nuit. J'ai chanté pour serre.
Radio. Radio.
Toute la nuit.
Radio.
C'était la promotion de Radio Panique par des voix non radiophoniques. Cinquième chapitre de la série « Comme un avion sans ailes, l'histoire de Radio Panique ». Première partie, 1983-1987. La lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes. Prochain chapitre, vers le premier plan de fréquence. Radio Panique devient une radio à deux vitesses.